voici mon rédempteur qui vit. Mais des fois c'est difficile, suivant qu'est-ce qu'on vit dans sa propre vie. Mais j'ai constaté, croire à Dieu, c'est pas facile des fois. Mais croire qu'il n'existe pas, c'est aussi difficile. Alors mon rédempteur vit, c'est aussi bien pour notre corps, parce que tout ce qu'on peut chanter qui est positif est aussi bien pour notre corps. Je veux inviter Claude Becher, notre pasteur, qui va donner la prédication. Et c'est une illustration pourquoi aujourd'hui on est là, en fait. Parce que j'ai appris à Romain Mottier, 400 ans après Jésus-Christ, la première église était fondée, grâce à Paul, en fait. Hein? Je te laisse faire la suite.
Oui. Merci André. Il y avait un jour un pèlerin, et il se promène sans connaître la maison, la montagne sur laquelle il se promène, et il arrive à un endroit où il y a 5 chemins qui s'ouvrent devant lui. Alors il est désespéré, parce qu'il n'y a pas d'indication. Et du coup, il découvre aussi qu'il y a un vieillard tout près des poteaux, tout près de l'endroit où bifurquent les différents chemins vers lesquels il pourrait s'engager. Mais il est désespéré, il ne sait pas laquelle choisir. Alors, il dit au vieillard, « Peux-tu m'indiquer le chemin vers lequel que je dois emprunter ?» Et le vieillard lui demande, « Et où tu vas ?» Et le pèlerin a dit, je ne sais pas. Alors le vieillard sage lui a dit, alors choisis n'importe laquelle. N'importe quel chemin est bon si tu ne sais pas où tu vas. Une feuille de route. Une feuille de route, c'est une expression assez récente. Feuille de route, c'est très politique aussi, feuille de route. Est-ce que l'apôtre Paul avait une feuille de route ? Et peut-il nous servir de modèle quant à l'option de sa feuille de route ? Je veux bien dire que même quand on a la feuille de route, il y a différentes options et il nous faut discerner devant le Seigneur laquelle prendre. Et c'est des fois pas simple, d'accord. Mais il y a au moins quelques options qui sont exclues quand on a une feuille de route, si on a une feuille de route. La dernière fois, nous avons parlé du chamboulement qu'a vécu l'apôtre Paul quand le Christ ressuscité lui est apparu et lui a demandé « Paul, dans ton zèle, juif, qui n'a pas reconnu que je suis le Messie, pourquoi me persécutes-tu » Vous vous souvenez de la prédication que nous avions ? Ceux qui étaient là se souviennent certainement. Nous avons vu ça. Maintenant, nous nous intéressons toujours encore à cet apôtre Paul et nous allons réfléchir à sa feuille de route et d'où il la tient. Et, curieusement, je ne mets pas à la lumière du livre des Actes des Apôtres ou des Corinthiens ou des Éphésiens, je mets à la lumière d'un livre qui a plus qu'un demi-millénaire d'ancienneté avant Jésus. Vous vous rendez compte ? 7e, 8e siècle avant Jésus, Ésaïe écrit une feuille de route incroyable pour le judaïsme qui aime le Seigneur, et qui a essayé dans son culte de faire des beaux cultes, mais qui a amené la corruption dans son culte. Et à la fin du livre d'Ésaïe, il y a une feuille de route extraordinaire pour le judaïsme de Dieu. La feuille de route de l'apôtre Paul à la lumière de Ésaïe 66, c'est le dernier chapitre. Ma femme et moi, nous sommes adeptes de ce petit carton. Il y en a, rassurez-vous, nous ne l'adorons pas. De temps en temps, ma femme et moi, nous avons des journées off. Quand il y a moins de pression, nous lisons 2 ou 3 chapitres de livres qu'on ne connaît pas trop. Par exemple, 2 Rois. C'est quand la dernière fois que vous avez lu 2 Rois ? Et il y en a des chapitres, et ce n'est pas que simple. Et tout d'un coup, nous avons compris que Le deuxième livre des rois montre le contexte dans lequel le prophète Ésaïe a été envoyé pour parler de la part du Seigneur à 3 ou 4 rois d'Israël corrompus. Le prophète, il n'a pas un job facile, hein. Vous savez, à un moment donné, toutes les nations du monde se prennent pour le nombril du monde. Moi, d'abord. C'est vrai aussi pour l'Église si elle ne fait pas attention. C'est pas l'Église d'abord, c'est qui ? Ton nom, c'est-à-dire ta réputation, Seigneur. Ton nom, ça remplace la personne. Ton nom, Seigneur, c'est ça qui est la feuille de route du peuple de Dieu et de l'Église. Alors, nous cochons, nous mettons 3 cases et nous sommes arrivés à Ésaïe. Et dans Ésaïe, il y a des choses qui sont incroyables. Tellement incroyable que le Seigneur nous a dit que ça viendrait, mais on trouve que c'est surprenant quand ça vient. C'est-à-dire la volonté du Seigneur de ne pas rester focalisé sur une ethnie, sur une nation, mais d'étendre sa bénédiction aux nations. Vous lisez Ésaïe, vous tombez à la renverse. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est actuel ? Et ça date de 700 et 800 ans avant Jésus. Vous avez suivi la Coupe du monde de football ? Qui d'entre vous n'a pas vu une seule séquence à la télévision du football ? Une personne. Deux. Ah, autre chose à faire. 3, 4, 5. Ce sont ceux qui n'ont pas de télé à la maison, hein, c'est facile. Hein. Moi, j'aime regarder ça. Ah, vous ne pouvez pas savoir. Ah, j'ai pas vu. Je dormais. Pour me consacrer à cette journée, malheureusement, je... C'est quoi le score ? Et les deux matchs terribles où j'ai ma nationalité dedans, j'ai même pas regardé. C'est pas le but de la prédication. On y vient. Pardon ?
De Messi.
De Messi. On prie pourquoi durant le mondial ? Qu'est-ce qu'on peut prier dans le mondial ? Vous n'avez pas vu ça ? Dans la foule, les joueurs, comme ils prient ? Non ? Je suis le seul à avoir vu ça ? Écoutez, moi j'ai trouvé qu'on est très pieux dans le monde. Et je veux dire, j'ai des frères et des sœurs, enfin surtout des frères hein, en l'occurrence, qui sont des croyants, et je n'ai pas de problème quand ils mettent un but, qu'ils disent merci au Seigneur. J'ai plus un problème, non, c'est le Seigneur qui a le problème, avec toutes ces prières qui viennent, qui sont contradictoires, l'un voulant mettre un but à l'autre. Et quelqu'un a écrit dans le journal, j'ai l'impression que le Seigneur laisse rouler la balle. Est-ce que nos prières ne ressemblent pas des fois à ces prières-là ? Seigneur, ma nation, contre les autres. Mais ça, on ne dit pas contre les autres. D'accord ? Dieu fasse gagner ma nation. Non ? Contre les autres, ça va de soi. Et ça pose une question qui n'est pas facile, parce que j'aime ma nation. À quel prix, c'est ça la question. Nous sommes un peuple de Dieu d'origine diverse ici, n'est-ce pas ? Seigneur, c'est drôle comment on devient religieux pendant les guerres et pendant la Coupe du monde de football. Et comment on peut oublier tout de suite après ? C'est pas ? La feuille de route, c'est quoi une feuille de route ? L'importance de savoir que Dieu en a une pour nous. L'expression feuille de route est couramment employée en France, en langue française, pour désigner les grandes lignes et surtout les étapes, la feuille de route, vers un but. D'une politique ou d'une stratégie ou d'un plan d'action vers un but. Il y a une question qu'on pose rarement dans les sociétés de consommation, c'est quoi le but de la vie ? On voudrait que le but soit la consommation des choses intermédiaires. Mais ce n'est pas ça. C'est quoi le but de ma vie ? Rares sont ceux, les moments où on pose cette question dans notre société. Donc, un itinéraire pour rejoindre un but. Quelle feuille de route pour l'apôtre Paul ? J'ai repris le chapitre de la fois dernière, où il est question du grand chamboulement chez l'apôtre Paul. Et je découvre qu'un homme qui est un juif de Damas, vous savez où c'est ? Un juif de Damas qui s'appelle Ananias et un juif croyant en Jésus le Messie, donc c'est un juif spécial qui est croyant, on dit un juif croyant en Jésus, Ananias, qui reçoit une parole pour rendre la vue à l'apôtre Paul qui était aveugle après avoir été tombé, à la renverse, à la révélation de Jésus sur son chemin, Ananias est envoyé et au nom de Jésus, il lui dit « Cet homme est un instrument. Quand tu t'es ouvert au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus te l'a dit, tu es un instrument de grâce. Tu n'es pas seulement le réceptacle de la grâce, mais tu es un instrument de grâce que Jésus, je, dit le texte de Acte 9, 15, je me suis choisi pour porter ton nom, vous vous souvenez ? Ça veut dire pour porter ma réputation. Pour porter ma réputation devant les nations païennes, ça on le sait de Paul, mais vous rendez compte ? Tu es un instrument pour porter là où tu n'irais pas naturellement, chez les étrangers, chez les païens, notamment en l'occurrence, les rois, quand il veut aller à Rome, c'est pour témoigner ton nom, mais témoigner ton nom au tribunal. Témoigner de la cohérence et réputation et beauté de Dieu, le Sauveur et Seigneur, devant les nations et les rois, pour porter ton nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Ça veut dire ses frères et ses sœurs. Ses frères et ses sœurs qui ne croient pas encore que Jésus est le Messie annoncé. Voici la feuille de route. C'est simple, c'est fort, apporter le nom devant. Saul de Tarse, nous l'avons entendu, je reprends l'expression de Valérie Compaoré dimanche dernier, a été littéralement retourné par Jésus-Christ. Mais retourné par Jésus-Christ, ce n'est pas que ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi sa lecture de ce qui se passe et l'orientation de sa vie. Quand on se convertit au Seigneur Jésus, il n'y a pas qu'une bouteille que l'on bouche avec le pardon. Certes, le pardon a grand prix. Converti au Seigneur Jésus, c'est recevoir les grâces, mais c'est aussi en même temps recevoir une feuille de route, une réorientation. Et maintenant, nous allons découvrir quelque chose dans le livre d'Ésaïe qui est extraordinaire. Ésaïe, j'aimerais vous rappeler le contexte. Israël avait été malmené. Il y a des tribus qui ont disparu, sont dans la nature. 11,5 tribus sont dans la nature, il reste une tribu et demie qui reste au Seigneur. Et Ésaïe est envoyé. Et Ésaïe est envoyé un prophète et dit, vous avez certes des sacrifices, vous avez des holocaustes, certes vous faites des prières, certes vous avez des temples au Seigneur, mais est-ce que vous croyez que Dieu va s'enfermer dans vos petits temples ? Grosso modo. Et alors on lit, dans Ésaïe 66, au verset 1 à 2, je ferai essentiellement des lectures pendant cette méditation-enseignement. Arrêtez avec vos petites maisons. Moi, ma maison, c'est l'univers. On adore un Seigneur dont la maison, c'est l'univers. Il ne s'enferme pas dans nos murs, même pas à Jérusalem, même pas dans le temple de Salomon, où il y avait certes un culte pédagogiquement important, mais il ne s'enferme pas là-dedans. La preuve, Ézéchiel, le prophète, dit que le Seigneur, il prend les ailes et puis il va aller en Irak et en Iran quand le peuple de Dieu est en partie expulsé vers ces pays. Dieu prend des ailes. Alors on trouve, voici ce que dit l'Éternel, mon trône, c'est-à-dire le lieu de ma résidence, là où il règne, mon trône, le ciel, la terre, l'escabeau où je pose mes pieds. Rien de plus petit que ça. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez ? Autrement dit, c'est quoi votre truc religieux que vous feriez pour m'enfermer, hein ? Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez et quel lieu de repos pourrait me servir à moi de demeure ? Mon nom. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et ainsi, elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Maintenant, drôle d'universalité, n'est-ce pas, dans la vision d'Ésaïe, on continue. voici sur qui je porterai un regard favorable. Et du coup, on découvre que le Seigneur veut habiter un endroit spécial. C'est dans le cœur des gens du monde entier qui ont ces caractéristiques sur celui qui est humilié, qui reconnaît qu'il est en besoin de Dieu, qui a l'esprit abattu parce qu'il sait qu'il est un pécheur, celui qui respecte ma parole. Ce n'est pas les choses extérieures qui font un juif, c'est le cœur. La circoncision du cœur et pas la circoncision du corps. C'est ça ce qui fait un juif selon Dieu, le membre du peuple de Dieu. Déjà, Ésaïe découvre ce que Paul va développer. Et on continue. On va découvrir quelque chose du plan d'action de Dieu. Vous avez parlé, on a parlé d'accouchement tout à l'heure. Hein ? Avant d'être en travail, vous savez ce que ça veut dire être en travail ? C'est avant que commencent les douleurs de l'enfantement. Hein ? Comment on appelle ça en termes techniques ? Les contractions. Oui, pourquoi ils mettent des vieilles formules comme ça ? Avant d'avoir les contractions, Sion a enfanté. Est-ce que tu as déjà vu ? Il y a des sages-femmes ici, on est riche en sages-femmes. Est-ce que ça existe un accouchement sans contraction ? Non. Alors tous les juifs auraient dit, normaux, les juifs normaux qui lisent ça, et tous les chrétiens normaux diraient, non, c'est pas possible. Eh bien oui, Sion, c'est Jérusalem, d'accord ? Sion a enfanté avant des contractions. C'est-à-dire, c'est même pas le travail du peuple de Dieu, c'est Dieu qui va faire des bébés. Avant d'éprouver les douleurs, Sion a donné le jour à un garçon. Alors ça, non, c'est juste pas possible. Mesdames, vous êtes convaincus. Les dames qui ont eu déjà des bébés, hein, ou qui ont assisté à un accouchement, messieurs ou mesdames. Qui donc a entendu rien de pareil ? Réponse, personne. Et qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? Et c'est la question de la lecture que fait l'apôtre Paul de ça. Le pays qui va naître d'un seul jour, c'est la Pentecôte. Un pays neuf va naître d'un seul jour. Où peut-on enfanter une nation en un instant ? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Jérusalem a mis des fils au monde. On va découvrir maintenant qui sont ces fils dans le plan de Ésaïe. C'est quelque chose qui est tellement incroyable que quand ça arrive, on dira encore c'est incroyable, pourtant c'est prophétisé. Eh bien, amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître ? Dit l'Éternel. Autrement dit, si moi j'amène le moment, il va naître, avec ou sans contraction. Moi qui fais enfanter. Plus loin, on saute les passages, il est dit, moi je vais aussi l'amener à allaiter, je prendrai soin de cet enfant. Empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vous de ce programme. Et on continue. Maintenant, on retourne à l'apôtre Paul. De temps en temps, Ésaïe, de temps en temps, l'apôtre Paul. Regardez ce que dit l'apôtre Paul quant à sa feuille de route. Mais malheureusement, tous, c'est-à-dire ses frères et ses sœurs, il est dans un développement. Il a mal, l'apôtre Paul. Il a reconnu en Jésus le Messie, sauveur du monde et puis sauveur d'Israël, puisque tous ont péché. Les nations, comme les Juifs, tous ont péché, sont dépendants du salut de Dieu. Il a mal quand il écrit ça. Il écrit, malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle de la venue de Jésus le Messie. Ésaïe déjà, vous voyez, il cite Ésaïe. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre messager ? Il dit ça dans Romains 10, versets 8 à 21, et là il cite Ésaïe. Qui a cru à l'annonce de la bonne nouvelle ? Donc, la foi naît du message que l'on entend, la foi qui sauve, pour juifs et non-juifs, naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie. Celui qui s'appuie sur Jésus le Messie, il est membre du peuple de Dieu. Maintenant donc, je dis, dit-il au verset 18, ne l'ont-ils pas entendu, mes frères et sœurs juifs grosses ? Mais si, ils l'ont entendu. Mais n'est-il pas écrit, et il cite le psaume 19, leur voix a retenti par toute la terre, leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. C'est quoi ce plan qui déjà est présent dans l'Écriture ? Et dans l'Épître aux Romains, on continue, c'est la suite de ce passage. Je demande alors, dit l'apôtre Paul, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su ? Aujourd'hui encore, il y a des membres du peuple international de Dieu, grâce à Dieu, qui sont de la descendance biologique d'Abraham, aussi bien du côté arabe que du côté des Israélites. Le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse a été le premier à leur dire à ce peuple « Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. » Drôle de stratégie. Déjà dans l'accord d'alliance, Moïse a dit « Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. » C'est nous, ça, hein ? On trouve ça dans Deutéronome 32. Grosso modo, il dit à Israël, « Mais si vous ne suivez pas ma voix, je vais utiliser un plan incroyable. Je vais vous rendre jaloux par un peuple de Dieu attaché au Seigneur. » Ça, c'est ce que Paul dit qu'il est en train d'arriver avec l'évangélisation mondiale. Et on continue, Romains 10, verset 20, Ésaïe, et il revient à Ésaïe, pousse même la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. » Et effectivement, quand les évangélistes sont venus au 4e siècle à Romain Mautier, 4e, c'était des commerçants, c'était aussi quelques soldats qui sont venus, des évangélistes itinérants aussi, des prophètes itinérants, qui sont venus annoncer la bonne nouvelle à des gens qui cherchaient de travers. Nos ancêtres, hein, mes ancêtres en tout cas, je ne sais pas les vôtres. Enfin, 4e siècle, ça fait loin les généalogies, hein. Et je trouve extraordinaire. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. » Ésaïe 65, verset 1. Vous voyez le programme ? On est à l'Ésaïe 66 dans notre lecture. C'est un drôle de plan. L'annonce de l'Évangile fait que la bonne nouvelle fait irruption même chez des gens qui ne cherchaient pas, ou qui cherchaient de travers, pour être vrai. Mais parlant d'Israël, Ésaïe dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Frères et sœurs, pour nous, c'est un avertissement. Un, c'est une grâce que l'Évangile nous soit parvenu. Deux, c'est un avertissement pour nous aussi que notre attachement au Seigneur ne soit pas formaliste. Parce que ce qui est arrivé à Israël arrive très bien et plus facilement pour l'Église qui n'a que formellement l'attachement au Seigneur et pas un attachement à l'alliance du Seigneur. Nous avons lu Romains 10 et nous découvrons que la feuille de route de l'apôtre Paul ressemble à ce que l'on trouve dans Ésaïe. Je retiens une chose, quel était le problème du peuple de Dieu ? C'est qu'ils croyaient qu'ils étaient le chouchou de Dieu pour eux-mêmes. Alors, ils développaient un culte qui était bien, mais ils pouvaient vivre d'une manière corrompue. Même leurs offrandes avaient des buts et des mobiles qui n'étaient pas justes. Ça, vous le trouvez dans Ésaïe quand vous le lisez, au chapitre 66. J'économise le temps ici. Mais le peuple d'Israël aurait dû comprendre, et certains l'ont compris, Paul et bien d'autres qui se sont tournés vers le Seigneur, auraient dû comprendre l'extension de l'appartenance au peuple de Dieu aux nations. Quand Dieu choisit un frère et une sœur, c'est toujours en vue de faire parvenir la bénédiction à d'autres. Ce n'est pas pour lui seulement, il est un instrument. Avec ses spécificités que le Seigneur va garder, on reste un instrument de la grâce de Dieu. Personne n'est dans ta peau, personne n'est dans ta place, personne n'a la qualité que tu as. Tu as des occasions uniques autour de toi pour faire connaître la grâce de Dieu. Les nations seront éduquées dans les voies du Seigneur par les envoyés, par la proclamation de la parole. Alors, voici l'énigme. Le texte du Nouveau Testament parle du mystère. L'énigme, je l'appelle énigme. Paul explique l'énigme qui était mystérieuse. Il dit, l'endurcissement d'une partie d'Israël. Grâce à Dieu, ce n'est pas tout Israël. L'endurcissement d'une partie d'Israël qui reconnaissent en Jésus, qui ne reconnaissent pas en Jésus le Messie, durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Regardez, entrer dans le peuple de Dieu, c'est même des païens qui ont la grâce, dans le projet de Dieu, déjà du temps d'Ésaïe, de faire partie de ce peuple de Dieu. Mais cet endurcissement, il durera toujours. Et ainsi, de cette manière, tout Israël sera sauvé. On trouve ça dans Romains 11, versets 25-26, un petit peu ailleurs, j'ai trouvé dans Éphésiens une explication de ce qu'il est en train de vivre, de la feuille de route, de la compréhension d'où il en est. Les païens sont admis au même héritage. Frères et sœurs, je viens d'une famille pas très glorieuse, au moins c'est ce que les gens en disaient. Mais la bénédiction ne se mérite pas. Elle se reçoit par la grâce. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse. Vous savez, les promesses faites à Abraham, à Moïse, par les prophètes. En Jésus, le Messie, quand vous avez Jésus-Christ, c'est Jésus, le Messie, le roi, par le moyen de l'Évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle. Trouvez ça dans Éphésiens 3, verset 6. Vous savez, ce genre d'explication, ce n'est pas que l'apôtre Paul. Pour l'apôtre Paul, c'est pour nous, frères et sœurs. Je ne dois jamais rencontrer quelqu'un où je dois penser ils sont exclus de la bénédiction de Dieu. Jamais, jamais, jamais. C'est jamais moi contre les autres. C'est moi en faveur des autres. Est-ce que vous avez réfléchi à la conversion mentale que ça fait, non seulement chez l'apôtre Paul, qui était dans son zèle du judaïsme non chrétien, persécuteur des chrétiens, et à ce moment-là, cette compréhension fait de lui un témoin de l'Évangile, persécuté à son tour, à cause de l'Évangile. Vous saisissez ? La conversion n'est pas qu'une conversion du casier judiciaire chez Paul, c'est une réorientation de la manière de vivre et de voir. Pierre et le centenier romain, Corneille, vous avez tout d'un coup une conversion, bien sûr des païens. Le centenier romain Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu, mais c'est des ennemis, c'est des gens contre lesquels on met des buts, les centeniers romains, vous comprenez? Et du coup, ils ne deviennent plus des ennemis à maudire, ils deviennent des amis, des frères potentiels. Ceci, simplement pour dire que quand on célèbre un culte, il y a une dimension que habituellement on oublie. On pense à la prière et la louange, on a raison. On pense à la communion entre nous et on a raison. On pense à la parole de Dieu et on a raison, mais il y a une dimension du culte que l'apôtre Paul a pratiquée et c'est quelque chose que j'aimerais vous redonner comme une réorientation de nos feuilles de route individuelles à nous. C'est la suivante. Ça honore le Seigneur comme un culte quand je suis à mon tour dans les situations qui sont les miennes et qui se présentent devant moi, un témoin de la bonne nouvelle de Jésus envers quiconque. Ça fait partie du culte. Vous voulez voir une preuve ? On n'a pas l'habitude de penser ça, j'aimerais y venir. Dans Ésaïe 66, et maintenant on y revient, il y a quelque chose d'incroyable. Est tellement incroyable que quand ça vient, encore aujourd'hui, on dit c'est incroyable. Et pourtant, c'est prophétisé depuis très longtemps. Voici, je vais venir rassembler toutes les nations. Jusqu'à là, on croit que le Seigneur va venir pour faire le ménage avec eux et pour les démolir et les détruire, d'accord ? Armageddon et compagnie, d'accord ? Non ? Ça, c'est bien inscrit ici. Mais ici, il va faire autre chose. Et des gens de toute langue, ils viendront et verront ma gloire. Comment verront-ils la gloire de Dieu ? Par des frères et des sœurs, aînés et plus jeunes, de toutes les races et de toutes les couleurs qui saisissent les occasions pour dire la gloire de Dieu. Ceux qui glorifient le Seigneur, ce sont des vies qui sont bien orientées. Je placerai un signe au milieu des nations. C'est assez mystérieux, c'est quoi un signe au milieu des nations ? C'est en tout cas quelque chose qui va arriver, hein, qui est marquant, un signe. Pour nous, de lecture chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et j'enverrai certains de leurs rescapés. Quelqu'un parlait des mauvaises nouvelles ? C'est une mauvaise nouvelle. Il y a des rescapés dans le peuple de juif, ça s'appelle les restes. Tout Israël n'est pas magiquement sauvé. Nulle part c'est marqué comme ça. Mais un reste, le reste de l'attachement à Dieu sera sauvé. Au travers de l'exil, j'enverrai, vous avez vu, Dieu, apostello, j'enverrai des apôtres. j'enverrai certains de leurs escapés vers les nations. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est l'Ancien Testament. Alors on croit que c'est la feuille de route de l'apôtre Paul. Dans l'Ancien Testament, il a dit, voici ma feuille de route, dit le Seigneur, je vais envoyer quelques rescapés du peuple de Dieu vers les nations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour les démolir? Pour mettre des buts contre les autres? À Tarsis. Tarsis, là, ce n'est pas la ville de Tars. C'est l'Espagne méridionale. À Poul et Loud, Somalie et Libye. Il n'y a pas encore la Suisse, excusez, ça va venir. Hein, dont les gens bandent l'arc. Donc, ce n'est pas juste des enfants de cœur, hein, ces gens. Ils font peur. À Tubal, l'Asie mineure, là où l'apôtre Paul est allé. À Yavan. Yavan, c'était la manière de dire la Grèce. La Grèce, vous savez quoi? C'est des super païens, hein. C'est des gens qui ont des dieux à ne plus finir, hein, avec Zeus au centre, vous savez. Vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, ça y est, au loin, c'est nous, qui n'ont pas encore entendu parler de moi. Vous vous rendez compte, c'est le livre d'Ésaïe qui dit ça, qui n'ont pas encore entendu parler. Laissez-moi vous dire, beaucoup de Suisses y connaissent l'Église. Ils se souviennent vaguement des exagérations de la chrétienté, mais connaître, parler de Jésus par des gens qui aiment Jésus, simplement en disant ce que Jésus a fait, simplement quand l'occasion se donne, il y a beaucoup de Suisses qui ne le savent pas. Et je ne parle pas là des Indonésiens, je parle des Suisses, ou des Français si vous voulez. Vers les îles, des gens qui n'ont pas encore entendu parler de moi, et n'ont pas vu ma gloire. Ça ne rappelle pas l'apôtre Paul, ça? On dirait que c'est la feuille de route de l'apôtre Paul. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Là, ce n'est pas pour mettre un but contre les autres, c'est pour faire une équipe ensemble avec des gens de ces nations. Alors maintenant, ce n'est pas fini. La surprise n'est pas finie. Et ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont vos frères. Alors là, on a un problème. Est-ce que ce sont les frères des gens de la diaspora, c'est-à-dire des juifs dispersés? Mais pourtant, on est avant la dispersion. On est dans le programme d'Ésaïe, avant la grande dispersion, et il dit, vous ramènerez vos frères. C'est des nations païennes, vos frères. Moi, je trouve extraordinaire dans cette église, c'est les nouveaux venus. Ils sont de partout. C'est comme le Seigneur s'est révélé à eux et on n'a pas l'autre choix que de dire « Je reconnais que Jésus est venu dans ton cœur, tu es le bienvenu mon frère, d'où que tu viennes, d'où que tu viennes. » Ben, c'est pas joli ça. Le fond est beau. D'où que tu viennes. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur dans le peuple international de Dieu. C'est pas fini. Comment ils se déplacent? Sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, ça c'est nos voitures, sur le dos des mulets ou sur le dromadaire. Et ils viennent où? Jusqu'à la montagne sainte Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Le temple de Dieu quand il existait, mais surtout, il y a pour nous Jésus qui a donné sa vie et est ressuscité d'entre les morts. Ils viendront avec des frères. Voilà une feuille de route qui est extraordinaire et c'est même pas fini. Maintenant, on arrive à la dimension culturelle. Je vous ai dit, faire des frères, recevoir des frères et des sœurs de partout, c'est une dimension de culte. Vous vous souvenez? Regardez. Ils viennent à ma montagne sainte, comme offrande à l'Éternel, ils présenteront leurs frères et sœurs. Vous saisissez? Là, il y a une dimension de culte. Je viens parce que j'en peux rien, mais j'ai témoigné, j'ai dit que j'aime le Seigneur, j'ai dit merci pour quelque chose et ça a frappé quelqu'un qui s'est tourné vers le Seigneur. Ah ben Seigneur, je te le présente et ça fait partie du culte. Et on continue. L'apôtre Paul, il fera exactement cela. Ils viennent apporter une offrande à l'Éternel. C'est une offrande non sanglante. Hein. Ne vous trompez pas, hein. Il ne s'agit pas de les sacrifier, hein, ces gens-là. Ils viennent présenter une offrande non sanglante à l'Éternel. Ce sera une offrande, dit l'Éternel, semblable à celle qu'apportent les Israélites dans des récipients purifiés au temple de l'Éternel. Du coup, on est dans une dimension de culte qui fait que, quand on a dit que le Seigneur vous bénisse, allez dans vos maisons, bénis, soyez bénis, le culte continue. On continue la lecture. Et même parmi eux, qui? Les frères nouveaux. Écoutez ça. Et pour un juif, ça... Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que pour un juif, Les sacrificateurs, c'est quelle tribu? Des Lévites. D'accord? Strictement, uniquement. Oui? Écoutez ça. Et même parmi eux, je prendrai certains pour être des prêtres et des Lévites. Ouf! Là, on est dans une dimension qui nous échappe tout à fait. Certains deviendront des prêtres et des Lévites. Souvenez-vous, Marc, par exemple, l'évangile selon Marc. D'autres qui ne sont pas de racines juives, qui sont tournés vers le Seigneur. Et puis depuis, plein de gens qui deviennent des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens dédiés particulièrement pour la célébration dans le temple. Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'Éternel déclare, ainsi subsisteront votre postérité et votre renommée. Est-ce que ce n'est pas incroyable dans Ésaïe? Nous trouvons ce que l'apôtre Paul a fait. Et je l'ai choisi comme un instrument pour apporter l'évangile aux nations païennes. Je l'ai choisi, lui qui était le zélateur pour la gloire et l'honneur de Dieu en tuant les disciples de Jésus, d'accord? Il devient le zélateur, toujours encore, on ne change pas les caractères, hein? Le zélateur pour ce programme de bienveillance envers tout le monde, de réconciliation, pour abattre les murs de haine, pour dire la bonne nouvelle et le pardon des péchés, pour dire aux peuples du monde entier qu'ils ont à se tourner vers le Dieu vivant. C'est un programme qui est tout à fait chamboulant pour l'apôtre Paul et pour nous. Il doit être un sujet de reconnaissance. Un. Parce que la grâce nous a touchés aussi. Deuxièmement, il doit être le réorientateur de notre vie pour que notre vie, également à son tour, glorifie le Seigneur. Paul lui-même était un sacrifice, une offrande au Seigneur. La deuxième chose, présenter des communautés était une dimension culturelle chez l'apôtre Paul. Vous avez déjà remarqué, j'aimerais juste vous dire combien Paul a bien lu Ésaïe. Regardez, Paul dit dans Romains 15, il a fait de moi le serviteur de Jésus le Messie, pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre, en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs, pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu. Vous saisissez l'apôtre Paul qui fait un culte? Le culte d'une offrande non seulement de sa vie, mais il présente des communautés entières qu'il a fondées par l'annonce de son évangile. Nous n'avons pas des communautés entières à présenter, mais nous avons simplement les occasions, dans notre culte, d'enrichir et de rendre fidèles nos cultes en étant à notre tour, cet été, là où nous serons, dans les occasions que le Seigneur va présenter. Qui que nous soyons, des personnes au Seigneur par l'annonce simple de ce que Jésus a fait pour eux. La bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus le Messie, je suis fier de mon travail pour Dieu. Et Paul s'est mouillé sa chemise. Nous terminons. J'ai quelques questions, les deux premières sont une et même. Est-ce que moi aussi je me suis ouvert à ce Messie, qui n'est pas seulement là comme Israël le pensait pour moi et pour mon bien contre les autres? Est-ce que je me suis ouvert à Jésus le Messie qui est là pour faire de moi un instrument, non seulement réceptacle de la grâce, mais transmetteur de la grâce? C'est la première question. Et je me la pose à moi aussi. La deuxième, c'est exactement la même, dite autrement. Est-ce que mon ordre de marche, ma feuille de route personnelle, est également orientée par le Messie Jésus pour faire bon accueil à ceux que le Seigneur mettra sur mon chemin, pour simplement dire ma joie d'être aimé de Dieu, ma reconnaissance et le pardon dont je suis moi-même l'objet? Quelle est la feuille de route de ma vie? Est-ce que je me trouverai comme ce pèlerin qui se trouve devant six nouveau chemin, à qui le sage dit « Et où tu vas ?» Que le sage ne me dise jamais « Choisis ce que tu veux. » Mais que ma feuille de route soit celle prolongeant, celle de l'apôtre Paul. Et je suis curieux de voir quels sont les nouveaux frères et les nouvelles sœurs que parmi les païens, suisses ou non suisses, le Seigneur va ajouter à l'Église. Amen.